Vous écoutez Radio Campus Lille, il est midi.
Vous êtes bien sur le 106.6 de la bande FM et sur le DAB+, et vous écoutez Bruit de Chine sur Radio Campus Lille. Nous sommes en compagnie de Cheng Lunyan, auteur, consultant et conférencier, né à Shanghai, qui partage son temps entre la France et la Chine. Il se pose et nous pose aujourd'hui la question, faut-il avoir peur de la Chine? Alors le père de la nation singapourienne, Lee Kuan Yew, a dit que la Chine est le plus important acteur de l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce que vous en pensez, Cheng Lunyan?
Effectivement, la Chine a été un acteur principal pendant des décennies, mais pas forcément sur la scène internationale, parce qu'à l'époque, la Chine était plus ou moins coupée du monde, et la Chine s'autosuffisait, était un pays d'autarchie qui vivait sur lui-même, l'empire du milieu. Le reste du monde, c'était pour la Chine, c'était des pays vassaux ou des territoires inexistants.
Oui, tout à fait. Alors, quels sont aujourd'hui les principaux défis que la Chine doit affronter dans les prochaines années pour gagner son pari de première puissance mondiale?
Là-dessus, je dois dire d'abord, cette année marque le 40e anniversaire de l'ouverture des réformes lancées par Deng Xiaoping. Et je dois dire que je suis, en tant que Chinois, je suis très fier des grandes réalisations que la Chine a pu accomplir pendant ce laps de temps relativement court. Et la Chine s'est métamorphosée, s'est complètement transformée. Mais d'une autre part, la Chine s'engage dans une voie que peu de gens dans le monde comme en Chine peuvent vraiment dire ou prédire. Parce que le système chinois est un peu, fonctionne un peu dans la boîte noire. On ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur. On peut apercevoir des choses apparentes sur lesquelles on peut juger.
Cela dit, cet anniversaire de l'ouverture de la Chine, on en parle bien peu.
Non, la Chine a célébré déjà...
Mais nous, ici, en Occident.
En Occident, qu'est-ce que tu veux dire?
On parle bien rarement de Deng Xiaoping, là, aujourd'hui, de ce 40e anniversaire, on en parle plus.
Oui. J'ai l'impression que, en France, au moins vu de France, la Chine est un peu passée de mode.
C'est vrai, on va pouvoir essayer d'explorer.
Dans une école que je fréquentais à Quimper, qui s'appelle Lisuga, l'enseignement du coréen dépasse maintenant celui du chinois.
Oh, ça je pense que c'est une mauvaise idée, mais enfin bon. Alors en tout cas, j'ai lu que certains observateurs disent que Shanghai sera bientôt la capitale économique du monde. C'est possible?
C'est un peu exagéré quand même, du monde de Chine certainement. Parce que
ça l'est déjà.
Oui, ça a toujours été. Du monde, une des capitales économiques du monde, il faut bien être réaliste.
Elle est bien placée.
Je suis de Shanghai, j'aimerais bien qu'elle soit.
Alors pourquoi, à votre avis, les Français et les Européens devraient-ils avoir peur de la Chine?
Je pense que c'est une fausse question, avoir peur de la Chine, ou ne pas avoir peur de la Chine. Parce que quand j'ai écrit ce livre avec Daniel Abert sur le malentendu du 21e siècle entre la Chine et l'Occident, j'étais basé sur un constat que, effectivement, comme je voyage entre les deux pays, je contacte les gens de toute catégorie, de toute classe, de part et d'autre, et je réalise qu'il existe un très profond malentendu entre les deux. Donc c'est plutôt cette question qu'il faut pas régler, qu'il faut comprendre, plutôt que de savoir si on doit peur ou pas, parce que on peut avoir peur de la France aussi.
Mais les malentendus débouchent toujours sur des incompréhensions, donc des peurs.
Oui, tout à fait. C'est la méconnaissance de l'un et de l'autre. Où on croit comprendre ce qu'on croit comprendre l'autre. C'est ça qui est difficile à parce que vous ne comprenez pas une chose, vous le reconnaissez, c'est bien. Mais quand vous ne comprenez pas une chose, vous croyez comprendre, c'est difficile d'enlever ces idées reçues de la tête des gens. De part et d'autre.
Vous avouerez que la Chine est quand même un pays complexe. Alors, Est-ce que vous pensez que les nouvelles routes de la soie sont un danger pour l'Europe? Je rappelle qu'elles coûtent 125 milliards de dollars d'investissement, en tout cas c'est ce que Xi Jinping a annoncé, et à mon avis ça fera évidemment plus.
Je peux déjà vous dire une chose, c'est que cette nouvelle route de la soie, quand elle a été avancée, initiée, ça s'appelait la stratégie de la nouvelle route de la soie. Et très rapidement, les Chinois ont réalisé qu'ils faisaient une erreur. Parce que quand on dit stratégie, c'est lié à l'idée de la guerre.
Ou de la conquête.
Donc, ils ont vite changé. Ils rebaptisent l'initiative de la route de la soie.
Mais donc, ça prouve bien qu'ils se sont rendus compte que réellement, leur projet était bien un projet stratégique.
Hein? Apparemment.
Hein? On est d'accord là-dessus. Une Chine forte qui veut contrebalancer la puissance américaine, elle n'est pas obligatoirement une menace pour le reste du monde?
Non, je ne pense pas. En fait, une Chine forte, c'est dans l'intérêt des Chinois, mais ce n'est pas contre l'intérêt du monde non plus. Ça dépend de du chemin que la Chine va poursuivre, non seulement sur le plan international, mais surtout sur le plan national.
Ah oui, vous pensez que la politique intérieure est pour l'instant plus importante?
C'est ça qui décide sa stratégie étrangère.
Et bien sûr, puisque la Chine est nationaliste, c'est quand même le moment de le rappeler.
La Chine est nationaliste depuis des siècles.
Toujours.
Depuis des siècles. Sauf pour de courtes périodes d'ouverture. Par exemple, après l'ouverture dans les années 80, par Deng Xiaoping, on a passé une décennie euphorique. Donc je garde un souvenir merveilleux des années 80. Avec quelques soubresauts entre-temps, bien sûr, et notamment avec l'événement de Tiananmen à la fin. Mais cette époque que j'ai vécue était une époque vraiment d'ouverture, où les Chinois étaient confiants, les Chinois étaient ambitieux, mais les Chinois étaient modestes. Ils voulaient apprendre auprès du monde, apprendre de bonnes choses, non seulement techniques, technologiques, mais aussi sur le plan, d'autres plans comme politique, culturel, etc.
Est-ce que vous regrettez cette époque?
Je le regrette très profondément, comme beaucoup de gens de mon âge.
Oui, parce que vous avez vécu une période historique qui ne reviendra plus jamais.
Non. J'espère qu'elle reviendra.
Vu d'ici comme ça a l'air mal parti.
C'est
mais bon.
On peut l'appeler même, pas le siècle, mais la décennie des Lumières.
Ah oui, c'est joli ça.
Comme le 18e siècle en France.
La décennie des Lumières chinoises. Très bien, je retiens l'expression. Alors en tout cas, Pékin joue avec l'Europe le jeu de la division pour pouvoir mieux régner. C'est un grand classique. quel est votre avis sur ce jeu entre la Chine et l'Europe?
En fait, pour la plupart des Chinois, l'Europe n'existe pas.
Oh.
Parce que déjà, en Chine, on voit la concurrence des sociétés, des grandes multinationales européennes. Une société française ne va pas faire cadeau à une société allemande quand il s'agit du marché. Donc la Chine a vite compris que l'Europe est scindée. Et chacun pour soi.
Ah, d'accord. Bon, donc ils ne croient pas du tout à notre union. C'est peut-être les seuls qui sont réalistes en fait. Hein.
Donc je crois que cette année, quand la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine commençait à se dessiner, les Chinois ont envoyé une délégation de haut gradé en Europe pour essayer de dresser l'Europe contre les États-Unis. Je crois qu'ils n'ont pas eu gain de cause.
Non, pour l'instant, non. En tout cas, justement, pour rester dans le sujet économique, les échanges sino-français sont en pleine expansion. Et heureusement, car je voudrais rappeler que nous avons un sacré retard par rapport à l'Allemagne, qui est à 42% le premier fournisseur de la Chine parmi les Européens, et la France à 11%. Alors ça dit quelque chose quand même, ça.
Bon, ce n'est pas une réalité récente, ça date de quelque temps, parce que à ma connaissance, d'après ce que j'ai vu, j'ai compris, la France dissociait toujours depuis belle lurette la diplomatie de l'économie. jusqu'à une date récente où les dirigeants français ont compris qu'il fallait pas séparer les deux. Donc les maintenant, heureusement, les présidents français se portent en champion pour promouvoir les entreprises françaises en Chine. Mais ça, le retard a été déjà là depuis longtemps.
Une bonne trentaine d'années. Oui. Donc ce président, c'est Emmanuel Macron.
Non, au départ, c'était quand même Jacques Chirac qui a commencé à promouvoir l'économie française auprès de la Chine.
Oui, c'est pour ça qu'il y a tant de partenariats entre la France et la Chine. Oui. Est-ce qu'on doit craindre en Europe les effets du Made in China 2025 ?
Made in China, c'est un... Je dirais que craindre ou pas, parce que l'Europe, le monde a bénéficié a bien profité du Made in China pour un niveau de vie de beaucoup amélioré. Parce que quand, depuis maintenant une vingtaine, 15 ou 20 ans, je découvre sur le marché français des produits vraiment très très peu chers, dont profitent les Européens. Donc de là, se plaindre du Made in China, c'est un peu ingrat.
Alors ce Made in China, en 2025, il va évoluer, il est en train d'évoluer vers bien d'autres choses. C'est vers l'innovation.
Vers Created in China.
Voilà, et c'est ça qui est important. Et c'est ça qui nous fait peur. C'est pas le Made in China. Bon, après ça, c'est l'appellation officielle chinoise que j'ai reprise. Mais ce qui nous fait peur, c'est plutôt l'innovation, la création que le Made in China.
Mais à mon avis, il faut surtout pas craindre que les autres inventent. Parce que l'Europe et l'Occident a eu votre heure. Et on commence toujours par imiter ou copier, comme vous voulez. Mais après, on invente, on crée. C'est dans le cours des choses.
Tout à fait. Chacun son heure, oui. C'est effectivement une bonne façon de réfléchir à la question. Alors, côté soft power, il y a eu le rêve américain qui a très bien fonctionné pendant des lustres, en tout cas depuis 45. Et ben, le rêve chinois, j'ai l'impression qu'il a un petit peu plus de mal à prendre malgré les instituts Confucius répartis partout dans le monde et malgré... Enfin voilà, qu'est-ce qui coince avec le rêve chinois ?
Très franchement, je ne sais pas comment définir le rêve chinois.
Ça parce que le
rêve français, le rêve américain, on le sait, donc... C'est-à-dire les gens issus de milieux modestes peuvent arriver réaliser son rêve dès qu'ils font un effort. Mais le rêve chinois, en quoi cela consiste? Je crois que la Chine n'a pas encore su bien définir le contenu de ce rêve. Et pour les étrangers et pour les Chinois. Vous demandez en Chine en quoi consiste le rêve chinois, peut-être devenir milliardaire.
Et donc le rêve chinois serait le même rêve américain, mais vu côté asiatique, c'est-à-dire s'élever dans la société.
Mais le rêve américain est basé sur une société permissive et puis tolérante qui autorise les gens, qui donne la chance aux gens, même les plus modestes. Mais en Chine, en ce moment, ce n'est pas encore le cas.
Et pourtant, grâce aux études, il y a beaucoup de jeunes Chinois qui arrivent à sortir de leur classe sociale.
Mais c'est-à-dire en Chine, il y a toujours ce qu'on appelle une hiérarchie très pesante, qui ne sont pas perméables entre les échelons, et aussi des statuts sociaux. C'est les gens issus de comment dire des dirigeants chinois, ce qu'on appelle les princes rouges et leurs familles jouissent toujours des privilèges. Ils ont toujours l'avantage d'emploi, l'avantage d'accès à la richesse, etc. Donc ce qui ne permet pas forcément aux gens de classe modeste de réaliser l'ascension.
Alors finalement, le rêve chinois serait peut-être tout simplement que la Chine soit maître du monde.
Voilà, ça c'est le rêve chinois. Mais est-ce que ce rêve
officiel,
vraiment...
Officiel.
Oui, officiel. Et ce rêve, est-ce qu'il profite aussi au peuple? Je ne suis pas sûr.
La question est posée. Alors, Cheng Lunian, on l'a dit, vous êtes né à Shanghai et vous avez grandi pendant la révolution culturelle. Quelle réflexion vous inspire la manière dont Xi Jinping gouverne aujourd'hui la Chine?
C'est une question un peu délicate, justement.
Alors, vous la prenez comme vous voulez ou vous sautez, Joker?
Oui. Non, mais en fait, je peux dire la vérité. Personnellement, je suis un peu sceptique vis-à-vis de ce nouveau dirigeant Xi Jinping. On avait beaucoup d'espoir placé en lui quand il était devenu président de la République ou président du parti. Mais au fur et à mesure, on découvre que cette lutte anti-corruption est dirigée surtout contre ses opposants ou ses ennemis ennemis politiques. Il n'a pas osé toucher aux plus grandes familles d'oligarchie chinoise. Et puis surtout, ces mesures ou ces démarches politiques qui sont pour moi rétrogrades, c'est une marche en arrière vers le maoïsme, quoi, c'est vers la révolution culturelle. Donc ces dernières années, il y a des tendances qui me fait peur, c'est des tendances, comment dirais-je, de nostalgie de l'époque maoïste ou même de la révolution culturelle. Et le néo-maoïsme, ça fait peur. À chaque année, à l'anniversaire de Mao, il y a des millions de gens qui se réunissent non seulement dans le pays natal de Mao, mais aussi à Pékin et ailleurs, qui commémorent les années maoïstes. Bon, je ne dis pas que les années maoïstes n'ont fait que du mal, mais quand même, c'est une partie de l'histoire chinoise assez traumatisante pour beaucoup, beaucoup de gens en Chine.
Mais finalement, Xi Jinping ne fait peut-être qu'aller dans le sens de ce courant qui est néo-maoïste et qui est populaire.
C'est plutôt le contraire. C'est le contraire.
D'accord. C'est lui qui le crée, en quelque sorte.
Parce que dans les années 80, que je viens d'évoquer, les Chinois qui venaient de sortir de la révolution culturelle et qui avaient été traumatisés par cette révolution, ils n'avaient pas du tout envie de retourner dans ces années-là. Bon, maintenant, peut-être les souffrances ont plus ou moins été oublié ou obnubilé par les autorités. Donc, de toute façon, la jeunesse n'y connaît rien. Parce que si tu demandes dans la rue des gens de 30 ans, de 35 ans, ce que c'était la révolution culturelle, ils ne savaient rien. Certains, ils
on
voient même.
On ne l'apprend pas à l'école.
Certains, oui, certains même, ils voient une époque libre, de grande liberté, où on n'avait pas allé à l'école, où on n'avait pas de prof, ni de dirigeant.
On n'allait pas à l'école, on allait dans des camps. Alors, comme ça, c'était. Effectivement, c'était une autre manière de. Oui, mais c'est toujours le problème de l'histoire qui passe, le temps passe et on oublie l'histoire et on recommence.
Non, une chose très inquiétante, c'est que maintenant, Xi Jinping essaye de rallier l'époque de Mao Zedong et l'époque de Deng Xiaoping. Il dit que l'un ne peut pas nier l'autre, alors que Deng Xiaoping a pris le contre-pied de Mao Zedong, tout le monde le sait. Et puis, récemment, il y a eu un remaniement des manuels scolaires en Chine, la partie concernant la révolution culturelle, parce que c'était décidé quand même par une décision du parti, que la révolution culturelle était une catastrophe de l'échelle nationale. Et maintenant, on a supprimé cette partie, le remplace par les efforts assidus de recherche d'une nouvelle voie. Ça veut dire que la révolution culturelle fait partie d'une recherche d'une nouvelle voie pour la Chine.
Donc positive.
Donc, au moins, c'est pas négatif.
En tout cas, c'est une tentative de réécrire l'histoire.
Voilà.
Quel rôle joue aujourd'hui justement le Parti communiste chinois qui compte aujourd'hui, je le rappelle, près de 90 millions de membres? Parce que Xi Jinping, il n'est pas tout seul.
Vous savez, maintenant, en Chine, être membre du parti ne veut pas dire grand-chose, parce qu'ils sont trop nombreux déjà.
90 millions, c'est pas mal.
Et puis, à une époque, l'adhésion au parti était tellement facile, il suffisait de postuler. Et aujourd'hui, Xi Jinping est en train d'assainir les rangs du parti. Il n'a pas encore osé lancer le mouvement d'épuration, parce que être un membre du parti aujourd'hui, ça veut rien dire.
C'est quand même faire partie d'une élite, non?
Non, pas du tout.
Non,
pas du tout.
Ça c'est vu d'ici, mais.
Non, l'élite, c'est pas forcément un membre du parti.
Mais on peut faire carrière en faisant.
Non, maintenant, je vous dis très franchement, à une époque, dans les années 50, même 60, 70, adhérer au parti, ça venait d'un désir ou d'un idéal social. Aujourd'hui, c'est des opportunistes hein, qui cherchent à adhérer au parti. Ils n'y croient pas du tout. Vous demandez à 100 membres du parti, et je crois aucun ne croit au communisme. Hein, ça, je peux vous assurer, ni même les hauts cadres.
Bah, ils ne me le diront pas de toute façon, donc je ne poserai pas la question. Alors en tout cas, en Chine, il n'est pas question de démocratie, ni aujourd'hui, ni demain, en tout cas ce que nous pouvons voir. Et en tout cas, ce que j'ai l'impression, c'est que ce que nous pouvons craindre, c'est plutôt que la Chine exporte son modèle de gouvernement ailleurs, puisque nous avons échoué à y implanter la démocratie. Ou en tout cas, à leur donner l'idée d'aller un petit peu vers la démocratie.
Mais en Chine, vous allez partout en Chine, la démocratie est inscrite sur le mur, hein,
ouais,
sur
comme
tous
nous,
les
chez
pans
nous.
De mur. Il y a des slogans, ce qu'on appelle les 24 caractères des valeurs essentielles des Chinois. Le premier ou le deuxième mot, c'est la démocratie.
Bon, alors ça fait réfléchir.
Tout à fait.
Je pense qu'en ce moment, ils n'ont pas vraiment envie d'importer notre modèle qui les fait pas rêver, par contre.
Mais officiellement, dans la presse officielle, maintenant, la démocratie occidentale, le pluripartite, partisme, sont condamnés. Les soi-disant valeurs universelles sont condamnées officiellement.
Mais vous n'avez pas l'impression qu'avec tous les problèmes qui se posent en ce moment dans le monde, que ce soit, je sais pas, au Brésil, en Amérique, en Europe...
C'est ça le problème, voilà. Parce que l'Occident ne donne pas un bon exemple.
Oui, mais nous regardons vers ces régimes qui sont totalitaires en disant « Ah ben, finalement, ils marchent pas si mal ». C'est ça, l'aller-retour.
Oui, c'est parce que le malentendu maintenant se creuse, s'agrandit et s'aggrave de part et d'autre. Et maintenant, les autorités chinoises montrent au peuple chinois, regardez ces pays occidentaux, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui se passe chez eux. La démocratie, est-ce que c'est une bonne chose? Et notamment dans ces pays après le printemps arabe, et qu'est-ce qui se passe dans le monde arabe. Donc les Chinois, de plus en plus de Chinois croient, et surtout les jeunes, croient qu'effectivement la démocratie c'est le synonyme du désordre et de l'inefficacité. Et dans un certain sens, ce n'est pas tout à fait faux.
Et c'est ça qui est très malheureux. C'est parce que c'est pas tout à fait
justement
fou.
C'est ça le problème, parce que ce qui m'inquiète, c'est ça, parce que ça s'implante dans la tête de beaucoup de Chinois que la démocratie c'est une hypocrisie.
Mais ça s'implante aussi dans la tête de beaucoup d'Européens que d'autres régimes peuvent fonctionner. C'est ça que je veux dire, c'est que toutes les extrêmes droites en sont l'évidence. Et du coup, le monde semble basculer, et il semble basculer, le monde entier, et il semble basculer du côté d'un régime qui ressemblerait plutôt à la Chine qu'à autre chose. C'est ça qu'il y a une perméabilité entre les idées.
À une époque, à partir des années 80, on a parlé surtout, c'était promu par le dirigeant singapourien, M. Lee Kuan Yew, on parle de l'autoritarisme asiatique basé sur le confucianisme. À une époque, beaucoup de gens croyaient que ce serait l'avenir du monde. Mais maintenant, réflexion faite, ce qui se passe en Chine me déçoit parce que ça a dépassé la limite de l'autocratie. Ça frôle la dictature. Parce que le régime est de plus en plus répressif.
Et la limite est difficile.
Voilà.
Donc,
c'est
sur le fil du rasoir.
Est-ce que la Chine pourra exporter ce modèle dans le monde? Vous n'avez pas peur?
Ah bah plutôt si, oui, c'est plutôt, oui, tout à fait. mais c'est pour ça qu'on en discute d'ailleurs. Alors, la politique expansionniste de la Chine, c'est d'abord et avant tout économique, malgré tout. Donc, on le voit en Afrique depuis longtemps, mais aussi en Europe et en France, où des Chinois achètent des vignobles. Je rappelle qu'il y a 120 châteaux dans le Bordelais qui sont chinois, des aéroports comme Toulouse-Blagnac, des ports, des terres, des laiteries, des forêts, le Club Med. À propos de ports, il y a 14 hectares d'entrepôts du port du Havre qui ont été achetés par les Chinois. En Grèce, ils sont aux commandes du port du Pirée. Enfin bref, je ne vais pas faire toute la liste. Donc évidemment, tout ça nous inquiète pour revenir à la question du début.
Mais je crois que si la Chine réussit à promouvoir un système raisonnable, qu'elle aille dans le monde, c'est dans la logique des choses. Quand un pays se développe, elle a des envies, ou plutôt des ambitions plus grandes. Et les Américains peuvent acheter partout dans le monde, pourquoi pas la Chine? Donc ce qui m'inquiète, c'est surtout la voie que prend la Chine. C'est pas le fait qu'il va dans le monde, je crois que c'est tout à fait logique.
Très bien. Comment vous voyez évoluer les actuelles tensions entre Washington et Pékin?
C'est une bonne question. Mais je peux vous signaler une chose que peut-être que vous ignorez, c'est que Donald Trump n'est pas impopulaire en Chine. Parce que d'après ce que j'observe en Europe, les Français, la plupart des Français sont anti-Trump.
Encore que...
Les médias, que... voilà, c'est tous les médias. Mais en Chine, il y a des gens qu'il est temps qu'on dit halt aux autorités chinoises sur certains sujets. Et surtout, c'est du côté intellectuel. Les intellectuels, ils pensent que... parce que depuis Tiananmen, surtout depuis le 11 septembre, l'Occident n'ose plus rien dire sur la politique intérieure de la Chine. Le mot « droit de l'homme » disparaît complètement des discours officiels des dirigeants occidentaux quand ils rencontrent la Chine, alors que c'était le dada à une époque. Bon, est-ce que c'est une politique d'apaisement je sais pas, donc c'est et donc certains intellectuels chinois attendent quand même des dirigeants occidentaux d'aider la Chine dans le processus de démocratisation ou de la vraie ouverture.
Ah bah là, ils peuvent attendre longtemps, on dirait. Hein.
Non, on ne peut pas dire ça parce que je ne sais pas si vous avez remarqué. Récemment, très récemment, depuis la guerre, depuis le déclenchement de la guerre commerciale entre les USA et la Chine, il y a des indices qui montrent que les autorités chinoises baissent le ton sur le plan international et commencent à parler plus de l'ouverture. Et récemment, il y a eu un salon universel des importations qui a eu lieu à Shanghai. C'était un geste pour l'Occident. On va importer plus, notamment pour Trump. le ton du culte de la personnalité de Xi Jinping baisse beaucoup même. Récemment, depuis quelques mois, 2 ou 3 mois, ça baisse. Et on parle de plus en plus d'encouragement de l'économie privée, alors qu'à une époque, on commençait à prôner le retour de l'économie planifiée. C'était très inquiétant. Maintenant, il y a un changement assez patent dans ce sens. Mais est-ce que c'est une mesure temporaire pour amadouiller un peu l'opinion internationale ou ça vient du fond de cœur? Je ne sais pas.
Bon, en tout cas, c'est une bonne chose.
Bien sûr.
Alors justement, comment vous voyez l'avenir des relations sino-françaises ou européano-françaises, enfin bref, dans les prochaines années, on va dire jusqu'en 2025, et pourquoi pas jusqu'en 2049, qui est une date importante?
Parce que 2025, c'est un projet chinois, c'est Made in China 2025, c'est où la Chine veut atteindre un niveau très élevé sur le plan technologique et scientifique. Je crois qu'il n'y a pas de grand souci à se faire pour la relation sino-française, parce que la France ne sera jamais à la tête de cette tendance anti-chinoise où se trouve Donald Trump.
Ce serait plutôt le contraire, rien que pour être contre Trump.
Justement, parce que les Chinois ont très tôt compris que la France prenait souvent le contre-pied des États-Unis depuis le général de Gaulle, qui est considéré en Chine comme un grand ami de la Chine.
Et avec raison. Bon, alors tout va bien, on va dire, jusqu'en 2049. Cheng Lunyan, merci. Je rappelle que l'on pourra vous écouter sur le même sujet. Faut-il avoir peur de la Chine? Ce soir, le mercredi 12 décembre 2018, à Lille, à 19h, chez Voyageurs du Monde, au 147 boulevard de la Liberté, et que cette conférence est organisée par les Amitiés franco-chinoises de Lille.